Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est avec ce chant nordique que la Finlande fête le centenaire de son indépendance et elle se penche sur ses réussites mais aussi sur son histoire douloureuse, celle d'un petit pays ballotté de la Suède vers la Russie, puis en guerre contre le géant communiste. La grande fête populaire est l'occasion de nombreuses initiatives marquant l'unité du peuple. Avec Laurent Berthaud, nous partons d'abord à l'Opéra de Helsinki pour un grand spectacle.
18 000 ans d'histoire pour un centenaire, c'est le pari un peu fou que s'est lancé le chorégraphe danois Kenneth Greve, directeur artistique du Ballet National de Finlande, pour rendre hommage à son pays d'adoption. L'histoire commence à la fonte des glaces avec l'apparition de l'actuel Helsinki. Pour la suite, le chorégraphe s'est inspiré d'un recueil mythique de contes anciens, le Kalevala.
J'ai surtout, au début, rester sur tout ce qui est ancien. C'est surtout une histoire sur le bien et le mal. Wainamoinen, c'est comme le créateur qui essaye de faire une vie en Finlande, et Pohjanakka, ça, c'est la femme du Nord qui est méchant, et ça tourne autour de quelque chose qui s'appelle le Sampo. C'est une espèce de machine qui crée l'argent, le pouvoir, et elle essaye de la piquer, et lui, il essaye de la garder pour créer, pour construire. Sinon, il y a dans le ballet plusieurs très grands tableaux qui représentent des périodes fondamentales pour la Finlande, quand ils ont découvert comment industrialiser le bois, parce que c'est un pays qui est beaucoup, beaucoup sur le bois, la mer, les lacs, toutes ces ressources naturelles qu'ils sont. Ils ont eu des situations très complexes parce que c'était un pays qui est occupé par la Suède et après par la Russie. C'était vraiment un petit pays coincé entre deux gigantesques pouvoirs. Une fois qu'ils ont commencé à demander leur indépendance, ça n'a pas été trop facile.
Le 6 décembre 1917, en pleine révolution russe, la Finlande déclare et obtient son indépendance sous l'œil bienveillant de Lénine. Mais le pays se déchire aussitôt dans une guerre civile fratricide entre les conservateurs, les blancs, et les sociaux-démocrates, les rouges, lesquels seront écrasés. En 100 jours, c'est 2% de la population finlandaise qui disparaît. Une déchirure sur laquelle le chorégraphe ne fait pas l'impasse.
On m'a beaucoup parlé de la guerre civile. On n'est pas fier de ça. Et on m'a conseillé de ne pas le montrer. J'ai quand même fait. J'ai pris deux garçons, deux frères. Et ils font comme une pas de deux, mais chaque fois, ils se battent. Et à la fin, ils se tuent entre eux.
Donc des blessures qui ne sont toujours pas refermées, selon vous ?
Oh non, certainement. La guerre en Finlande, c'est quelque chose qui est encore très vif, c'est encore frais. C'est un pays qui a 100 ans, et c'est tout.
C'est la lutte contre l'envahisseur russe en Carélie qui ressoudra le peuple finlandais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ballet se fait plus léger et coloré à partir des années 50, chatoyant même avec les textiles Marimekko, et se transforme carrément en show électrique à l'évocation du prodige technologique national Nokia ou des personnages du jeu Angry Birds et des héros et héroïnes nationales, voire internationales, comme le pilote de rallye Timo Mäkinen. Avec une première à l'Opéra d'Helsinki, avant le ballet, les spectateurs sont invités à visiter les coulisses et surtout à passer sur scène.
La Finlande et les 100 ans de la Finlande, le mot qu'ils ont utilisé, c'est ensemble. Et je pensais que c'était même exactement ce que je voyais comme une possibilité pour ce spectacle, qu'on participe tous. Et il y a vraiment la sensation de que ça, c'est la Finlande et on fait partie.
Believe in the impossible. We've made it real before. In a land of cold, we made a home that shares its good with all.
célébrer l'unité du pays, les Finlandais y ont été invités il y a un an lors d'une campagne lancée par le commissariat au centenaire. 7000 propositions ont été faites, 5000 retenues. Des choses parfois toutes simples comme partager un repas ensemble dans tel ou tel village, entreprise, prendre un sauna ensemble, interpréter Finlandia, l'œuvre emblématique de Sibelius, l'enfant du pays, donner un coup de main à son voisin, broder des casquettes aux couleurs nationales blanches et bleues, et surtout évoquer et partager les valeurs finlandaises que rappelle Pekka Temonen, secrétaire général pour le centenaire de la Finlande.
La communauté des Finlandais est attachée à certaines valeurs depuis un siècle. Cela fait 100 ans que nous vivons en démocratie sans interruption. Nous nous sommes battus pour l'égalité, avec le droit de vote accordé aux femmes dès 1906. Au cours de ce siècle, nous avons toujours pensé que l'éducation rendrait la société meilleure. Et aujourd'hui, notre système éducatif est réputé dans le monde entier. Nous croyons en une société qui accepte tout le monde et qui offre un bon système de santé. Et comme nous, les Finlandais, nous adorons la nature, la question du développement durable va de soi. Voilà les valeurs qui font que la Finlande est la Finlande et que toute notre communauté partage.
8 Finlandais sur 10 ont indiqué que cette commémoration était un événement personnellement important pour eux. C'est le cas d'Aslak, dont le père est originaire du Sri Lanka et la mère finlandaise. À 38 ans, il a beaucoup voyagé et vécu à l'étranger avant de revenir s'installer en Finlande. Lui aussi est de la fête ces 5 et 6 décembre pour dire ce qu'il aime dans son pays.
Je dirais d'abord une honnêteté à toute épreuve. Le fait de travailler dur, de ne jamais baisser les bras et de relever la tête quand ça va mal. Ce que nous, Finlandais, appelons le sisu, surtout l'hiver quand il fait froid. La nature, c'est très important pour nous. Aller se promener en forêt, l'égalité des chances pour tout le monde. Il n'y a pas non plus la dictature des parents sur leurs enfants. Pour résumer, je dirais que c'est un pays très égalitaire avec des gens très honnêtes.
À Helsinki, des centaines de cérémonies et de manifestations sont organisées depuis hier mardi pour 2 jours afin de marquer ce centenaire. De nombreux événements se dérouleront encore jusqu'en janvier 2018 et les visiteurs de passage pourront entre autres goûter aux joies d'une spécialité bien finlandaise, un sauna de Noël installé dans les rues de la vieille ville.
C'était le reportage de Laurent Berthaud. L'université de Cambridge est l'une des plus prestigieuses au monde. À 1 heure de Londres, elle attire des talents du monde entier, notamment des scientifiques. Il y a une douzaine d'années, les jeunes Hongrois qui étudiaient à Cambridge se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, ils sont plus d'une cinquantaine. La dégradation du niveau de l'enseignement supérieur dans le pays et le désir de voyager y sont pour beaucoup, et cela malgré l'inquiétude du Brexit. Florence Labrière.
Ambiance animée au lycée Apachai de Budapest. C'est la fin de la journée et les élèves de seconde, première et terminale sont venus rencontrer Ivan Merker. Ce jeune Hongrois est étudiant à Cambridge en philosophie. Il est venu informer les lycéens sur la marche à suivre pour rejoindre la prestigieuse université. Ivan Merker.
Je suis parti à l'étranger car l'enseignement est meilleur qu'ici. En Hongrie, l'université ne s'occupe pas de vous, alors qu'en Angleterre, on a tous un tuteur. L'université s'intéresse au bien-être et au progrès de l'étudiant, surtout à Cambridge.
À Cambridge, Ivan a découvert le fossé culturel qui sépare la Hongrie de l'Angleterre.
En Hongrie, ce n'est vraiment pas cool d'être membre d'un parti politique. Mais en Angleterre, je connais plein d'étudiants qui sont au parti travailliste. Il y a aussi des conservateurs. Et la différence, c'est que dans chaque université, il y a plein de clubs étudiants. À Cambridge, il y a le club des idiots, celui des assassins, et aussi des clubs politiques.
En attendant l'entrée en vigueur du Brexit, l'Angleterre fait encore partie de l'Union européenne. Les étudiants hongrois payent donc les mêmes frais d'inscription que les Britanniques. Des frais élevés qu'il faut financer par un prêt, comme l'explique Shoma Tori, 19 ans, étudiant en première année de chimie à Cambridge.
Et j'ai dû prendre un prêt étudiant pour payer les frais d'inscription. C'est 9 000 livres par an. En plus de ça, L'université me donne une bourse pour le logement, la nourriture. J'ai aussi demandé une bourse au collège.
Les collèges de Cambridge. Marc Messari n'a que 16 ans, mais ce grand blond, qui est en seconde, en rêve déjà. C'est pour en savoir plus qu'il est venu à la réunion d'information.
D'après ce que j'ai compris, le collège, c'est comme une grande famille. On peut se faire plein d'amis, les étudiants vivent tous ensemble. Ici, ça n'existe pas.
Direction un autre arrondissement de Budapest où se trouve le lycée Fazekas. Bien qu'il soit situé dans un quartier populaire, c'est le meilleur lycée de Hongrie pour les matières scientifiques. Sur l'un des murs de l'établissement, un grand panneau noir avec les noms de 300 élèves qui ont gagné les Olympiades internationales. Tomasz Foki est professeur au lycée Fazekas.
Ici, il y a les matheux, là, les forts en physique. Sur ce tableau, il y a tous ceux qui ont reçu une médaille d'or, d'argent, de bronze ou bien les félicitations du jury.
Le lycée Fazekas est le premier à avoir noué des contacts avec l'université de Cambridge.
La particularité de notre lycée, c'est que nos élèves participent souvent à des concours internationaux et ils gagnent beaucoup de médailles. Et c'est pendant une Olympiade, il y a 12 ans, que nous avons noué le premier contact avec Cambridge. L'équipe anglaise était entraînée par des professeurs de cette université. Ils ont rencontré notre équipe.
Aujourd'hui, sur les 50 étudiants hongrois qui sont à Cambridge, une trentaine vient du lycée Fazekas. Tomasz Foki en est très fier. Il décroche une photo du mur. On y voit 12 élèves, dont il a été le professeur principal.
Ces 12-là étaient tous dans la même classe. Aujourd'hui, ils sont tous diplômés de Cambridge. Quand je suis allé les voir là-bas, un professeur m'a dit qu'en Angleterre, on n'avait jamais vu autant d'élèves de la même classe entrer à l'université.
Certes, Tomasz Foki regrette que les meilleurs éléments quittent le pays, mais il y voit aussi des avantages.
Si, bien sûr, je suis désolé qu'ils partent, c'est un vrai problème. Mais voilà, c'est normal, aujourd'hui les gens trouvent du travail à Londres ou à Los Angeles. Le monde est devenu petit, mais il y en a qui reviennent. Vous savez, certains de nos jeunes sont plutôt partisans du gouvernement, ils ont des préjugés. Eh bien, quand ils reviennent de l'étranger, ce sont de parfaits démocrates.
Élève de terminale au lycée Fazekas, Damian Tarkani, lui, projette plutôt de s'inscrire à Oxford.
Ma sœur étudie à Oxford, elle m'en a dit beaucoup de bien. J'ai choisi Oxford parce que je n'ai jamais participé à une Olympiade. J'ai plus de chances d'entrer à Oxford car là-bas, ils accordent moins d'importance aux médailles. Ce qui compte, c'est les connaissances et le potentiel d'un étudiant.
La perspective du Brexit n'a pas émoussé l'intérêt des jeunes hongrois. Ils sont toujours nombreux à venir aux réunions d'information. Au printemps prochain, ce sont des professeurs de Cambridge qui viendront rencontrer les lycéens à Budapest.
Même si les résultats restent à confirmer dimanche prochain, les élections territoriales corses marquent déjà la victoire des nationalistes. Et ils ont un objectif avoué, c'est de parvenir d'ici 3 ans à l'élaboration d'un statut d'autonomie pour l'île française. L'Europe compte ainsi une trentaine d'îles comparables à l'île de Beauté qui abrite plus de 15 millions de citoyens. Quel rapport ces territoires entretiennent-ils avec leur pays d'attache? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors, la Corse jouit-elle déjà d'un certain degré d'autonomie?
La Corse jouit d'une relative autonomie administrative depuis qu'elle est devenue en 1982 une collectivité territoriale et non plus une simple région. Surtout, depuis 1991, elle dispose d'une prérogative institutionnelle spéciale, celle de la responsabilité de son conseil exécutif devant l'Assemblée territoriale. Elle jouit par ailleurs de compétences élargies en matière de transport, d'aménagement du territoire et de culture. La réforme qui entre en vigueur au 1er janvier 2018 ne change à vrai dire pas grand-chose, si ce n'est le fait de supprimer les deux départements. Alors, ayant mis de côté pour de longues années leurs revendications d'indépendance, l'objectif des nationalistes est d'obtenir d'ici à 3 ans, outre le rapatriement des prisonniers qu'ils jugent politiques, l'adoption d'un vrai statut d'autonomie instaurant une co-officialité de la langue corse avec le français, la création d'un statut de résident corse et surtout des pouvoirs législatifs propres et l'autonomie fiscale.
Et si on regarde les autres îles de la Méditerranée, ces exigences paraissent-elles vraiment excessives ?
Pas du tout, Catherine. Certes, la Grèce, qui est, comme la France, un État centralisé et unitaire, n'accorde aucune autonomie à ces grandes îles que sont la Crète ou Rhodes. Mais la comparaison avec les deux plus grandes îles de Méditerranée, la Sicile et la Sardaigne, est édifiante. Chacune jouit d'un statut particulier au sein de la République italienne. Élection au suffrage universel du président de région et compétences législatives propre dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'urbanisme, de l'éducation primaire, du tourisme. Sur le plan fiscal, les 5 millions de Siciliens conservent dans l'île pratiquement la totalité de tous les impôts perçus, sans pour autant se passer des subsides réguliers de l'État italien. Quant aux Sardes, qui ne sont que 1 600 000, mais dont l'île est presque aussi grande que la Sicile, 25 000 km² contre 8 700 seulement pour la Corse, leur autonomie fiscale est moins complète et leur revendication de se transformer en zone franche est bloquée par Rome. Ils font cependant des envieux dans la Corse toute proche.
Alors Daniel, la situation est-elle comparable aux Baléares ?
L'archipel, qui compte plus d'un million d'habitants, est une communauté autonome d'Espagne depuis 1983. Elle est dotée d'un parlement qui élit le président des Baléares, actuellement une femme socialiste. Le catalan en est la langue co-officielle avec l'espagnol, et la communauté des Baléares exerce, tenez-vous bien, 51 compétences exclusives. Pratiquement tous les domaines sont gérés au plan local, sauf la défense, la justice et l'enseignement universitaire. Sur le plan fiscal, malgré un système très élaboré de compensation, l'autonomie n'est toutefois que partielle, contrairement à la Sicile.
Qu'en est-il des îles relevant d'un autre État unitaire comme le Royaume-Uni ?
Même si elles ne disposent pas de la personnalité juridique internationale, les îles anglo-normandes de Jersey et Guernsey, ainsi que l'île de Man, située en mer d'Irlande, sont pratiquement indépendantes, sauf en matière de diplomatie et de défense. En réalité, elles ne font pas partie du Royaume-Uni ni de l'Union européenne, mais sont directement attachées à la couronne d'Angleterre, dont le souverain porte aussi le titre de duc de Normandie. Même si les Français, depuis Philippe Auguste au XIIIe siècle, se sont emparés de la province continentale. Quant à l'île de Man, la relation féodale est encore plus marquée puisqu'elle est propriété du monarque britannique. Institutionnellement, ces territoires ont toute l'apparence d'un État puisqu'ils sont dotés d'un parlement, d'un gouvernement et d'un premier ministre et qu'ils accordent une nationalité locale. Enfin, au plan fiscal, l'indépendance est totale et permet à ces îles d'être considérées comme des paradis fiscaux.
D'autres exemples peut-être au nord de l'Europe, Daniel ?
Si les îles danoises et allemandes de la Baltique sont partie prenante des territoires continentaux limitrophes, il n'en est rien pour les îles Åland, archipel de 1500 km², peuplé de 28 000 habitants, situé dans la Baltique entre la Suède et la Finlande. Åland est un État libre associé à la Finlande et, à ce titre, membre de l'Union européenne. Ces territoires, dont l'unique langue officielle est le suédois, disposent d'un gouvernement et d'un parlement ainsi que d'un pouvoir législatif autonome dans tous les domaines, à l'exception de la justice, des douanes, de la diplomatie et de la monnaie, puisqu'ils utilisent l'euro en concurrence avec la couronne suédoise.
Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Et vous l'avez deviné, on va parler de dessin et de caricature sur le thème du vivre ensemble. Cela se passe à Molenbeek, en Belgique. Molenbeek, c'est cette commune de la périphérie de Bruxelles qui a tant fait parler d'elle après les attentats de Paris et Bruxelles, car de nombreux kamikazes étaient originaires de la ville. L'association du dessinateur français Plantu, Cartooning for Peace, a décidé de faire participer les jeunes à ce projet Lex Milota.
Des jeunes qui sont aussi commissaires de l'exposition Traits d'Union. 80 dessins de presse, 6 dessinateurs de Belgique, Syrie, Tunisie, France et Israël qui confrontent leurs regards sur le thème du vivre ensemble. Les dessins ont été choisis par des jeunes de Molenbeek à l'occasion d'ateliers avec les dessinateurs. Pour le fondateur de Cartooning for Peace, Plantu, il faut absolument refaire de la pédagogie au sujet de la liberté d'expression. Philippe Geluc, le créateur du chat, estime que le second degré n'est plus compris par les jeunes. Il faut le réexpliquer.
La liberté d'expression est mise en danger, l'humour est mis en danger et il faut le préserver. Et cette façon que j'ai, moi, que j'affectionne d'aborder les choses qui est le second degré, de faire croire qu'on dit une monstruosité, mais en fait c'est pour rire. Si l'autre ne le comprend pas, c'est terrible, c'est monstrueux, parce qu'on peut dire des énormités. Et si l'autre pense que c'est vraiment une énormité, ben il va vous détester, et il va vous taper dessus, ou pire. Est-ce que tu as le droit de pas comprendre ma blague ? Oui, évidemment. Mais donc, parlons-en, et j'espère, dans ce dialogue, parfois arriver même à faire rire celui avec qui je dialogue, et pouvoir lui dire à un moment « Ah mais t'as vu, là t'as rigolé ». Donc on peut rigoler ensemble, donc on va y arriver.
Les expositions de Cartooning for Peace sont itinérantes, d'école en école, pour réfléchir sur la liberté d'expression et la censure.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, les infos.